France Inter.
Aujourd'hui, quand les volcans bouleversent le cours de l'histoire, raconté par...
Gilles Chazot, géochimiste et professeur au laboratoire Géo-Océan de l'Université de Brest.
France Inter, la Terre au carré, Mathieu Vidard.
Au début de l'été 1783, la France, puis bientôt toute l'Europe, est touchée par un étrange brouillard qui s'étend un peu plus chaque jour. Le ciel vire au carmin le soir, le temps est anormalement orageux, l'air sent le soufre et les yeux piquent. Les feuilles roussissent, des récoltes sont anéanties, personne ne comprend les raisons de ce phénomène que l'on imagine passager. Pourtant, la situation perdure. Si l'été est caniculaire, l'hiver est précoce et long, les fleuves gèlent, les neiges sont continuelles, on meurt de froid. S'en suivent la débâcle printanière et des pluies diluviennes qui causent d'importantes inondations dans tout le royaume. Consécutif à cette saison pourrie, arrive le temps de la disette. Dans les années suivantes, le climat conserve ce fort dérèglement et il n'est pas rare de voir tomber la neige au printemps. Au début des années 1790, un naturaliste danois identifie grâce à une étude de terrain les responsables de la terrible éruption qui avait recouvert l'Europe de ses fumées, les cratères du Laki, une chaîne de volcans située en Islande. Dès l'été 1783, le météorologue montpelliérain Jacques-Antoine Mourgue avait émis l'hypothèse de cette éruption, mais pour la postérité, le scientifique et diplomate américain Benjamin Franklin est le premier savant à avoir pressenti l'origine du volcan. En 1778, le docteur Franklin, l'ambassadeur électrique, comme se plut à le surnommer la reine Marie-Antoinette, se présente à la cour. Brillant scientifique et météorologue, il est honoré par les académies. Alors que tout le monde questionne le ciel, son avis compte. Entretenant de multiples correspondances avec les savants de toute l'Europe, il consigne les perturbations de l'atmosphère et identifie l'origine volcanique du brouillard rouge. Mais rien ne semble indiquer qu'à Versailles, les alertes de Franklin aient été prises au sérieux. Pourtant, la France va devoir faire face à une crise sans précédent. L'événement climatique de 1783-1784 est considéré par certains historiens comme une des raisons de la montée en puissance des mécontentements et comme l'élément déclencheur d'une inéluctable crise politique. C'est à Philadelphie, où il a consacré les dernières années de sa vie à la rédaction de la Constitution américaine, que Benjamin Franklin apprendra le déclenchement de la Révolution française. Ce récit, écrit par l'historien Nicolas Bruno Jacquet, a été publié en avril dernier dans le numéro 24 des Carnets de Versailles. Bonjour Gilles Chazot.
Bonjour Mathieu.
Cette éruption du Laki en 1783, c'est l'éruption donc d'une fissure qui est située dans un système volcanique qui est très productif en Islande. Ça signifie qu'il est toujours actif ou pas ?
Alors, il est plus actif, il y en a d'autres, hein. Il y a beaucoup de systèmes fissuraux en Islande et le Laki a produit une des plus grosses éruptions de ces derniers siècles en Islande. C'est une éruption qui a duré 8 mois et qui a émis, on estime, près de 15 km cubes de magma basaltique pendant ces 8 mois et qui a surtout envoyé dans l'atmosphère des millions de tonnes de dioxyde de soufre. Pour vous donner une idée, on estime que le Laki, c'est 6 fois plus de dioxyde de soufre que l'éruption du Pinatubo en 1991,
ouais,
qui est considérée comme l'éruption la plus puissante du XXe siècle. Donc c'est des quantités de cendres et de dioxyde de soufre énormes envoyées dans l'atmosphère.
Et l'Europe sentait ce soufre-là ?
L'Europe, alors c'est oui, l'Europe sentait que l'atmosphère avait un goût, une odeur bizarre, l'eau avait un goût étrange aussi. Et puis, bien sûr, toute l'atmosphère était envahie par à la fois les cendres et le dioxyde de soufre.
Alors, ce qui rend cette éruption si extraordinaire, c'est que ces impacts donc, ont atteint des régions bien au-delà des frontières de l'Islande.
Ah oui, c'est toute l'Europe. Alors, c'est une éruption qui s'est déroulée en Islande, donc à haute latitude, mais c'est toute l'Europe de l'Ouest qui a été affectée, et un petit peu l'Amérique du Nord aussi, mais dans une moindre mesure,
ouais,
qui ont été affectées par cette éruption.
Sauf que les contemporains de l'époque ignoraient qu'une éruption volcanique s'était produite en Islande au même moment. Donc,
c'est ça.
On n'a pas fait le lien.
Bah, pas tout de suite. Non, il a fallu attendre un peu avant de pouvoir corréler les deux. Et,
ouais.
Il y a eu beaucoup d'interrogations sur... Et alors, ce qui est étonnant, c'est que ça a provoqué un été très chaud alors qu'on le verra, beaucoup d'autres éruptions volcaniques ont eu comme effet inverse, un effet inverse, c'est-à-dire un refroidissement des étés qui ont, pendant les années qui ont suivi les éruptions.
Là, avec le Laki, donc en 1784, c'est la première fois qu'un lien est établi précisément entre des conditions climatiques et l'éruption d'un volcan.
Oui, oui, on n'avait jamais fait le lien avant, et donc c'est entre autres Benjamin Franklin qui a fait ce lien direct. Jusqu'à maintenant, on n'a pas de récits qui permettent de lier des variations climatiques, météorologiques, on va dire, avec une éruption volcanique.
Gilles Chazot, de tout temps, notre planète a été façonnée par des éruptions majeures. C'est vraiment une constante de la vie de la Terre, ça, hein ?
Oui, de toute façon, du volcanisme, il y en a depuis que la Terre s'est formée. Bien sûr, la quantité, l'intensité de ce volcanisme, il fluctue dans le temps. Et on connaît des épisodes de volcanisme beaucoup plus intenses qui ont marqué l'évolution de la vie sur Terre. C'est ce qu'on appelait avant les provinces de trappe, qu'on appelle maintenant les grandes provinces magmatiques, et dont la plus connue, c'est la province du Deccan, en Inde, qui s'est mise en place il y a 65 millions d'années, environ entre 65 et 66 millions d'années. Alors, ça n'est pas une éruption. C'est un ensemble d'éruptions volcaniques. C'est une période volcanique intense qui dure une période qui est géologiquement courte. Alors, il faut se méfier de la notion du temps avec les géologues.
Par rapport aux humains, c'est ça.
C'est-à-dire un peu moins d'un million d'années. Ce qui, à l'échelle humaine, est beaucoup, à l'échelle géologique, est très court. Mais il faut imaginer que les trappes du Deccan, en un million d'années, c'est 1,5 fois la superficie de la France recouverte de roches volcaniques sur une épaisseur de quelques centaines de mètres à jusqu'à 2 kilomètres.
Ouais. Alors ça, 65 millions d'années, 66 millions d'années, c'est une date évidemment qu'on peut avoir aussi à l'esprit pour la disparition des dinosaures. Et le fameux astéroïde qui est tombé sur Terre.
Donc,
on a beaucoup oublié cette activité volcanique, hein.
Oui, il y a toujours débat pour savoir quel est le phénomène qui a eu le plus d'impact. Il se trouve qu'en même temps, il y a eu cet impact de météorites. Mais en tout cas, on a pendant un million d'années des centaines ou des milliers d'éruptions volcaniques qui se succèdent dans le temps, qui modifient complètement la composition chimique de l'atmosphère terrestre et donc perturbent tous les biotopes, qu'ils soient continentaux. C'est la disparition des dinosaures, ou presque disparition des dinosaures, puisque certains ont survécu. Et puis, ça a perturbé les écosystèmes marins aussi. Et comme emblème de ces disparitions, c'est les ammonites. Les ammonites, ces fameux fossiles enroulés là, qui ont dominé les océans du Mésozoïque et qui disparaissent définitivement à cette période-là.
Donc on voit bien qu'un épisode comme ça, avec des éruptions volcaniques majeures, peuvent modifier l'évolution même de la vie sur Terre.
Complètement. Et ça s'est produit une autre fois, un peu plus loin dans le temps, il y a 250 millions d'années, à la limite entre le Permien et le Trias. On a aussi une province volcanique en Sibérie, qui est gigantesque, elle aussi, et il y a 250 millions d'années, la crise biologique est encore plus forte que celle d'il y a 65 millions d'années. Ouais. Elle a complètement bouleversé le cours de l'évolution, à la fois sur les continents et dans les océans.
Revenons alors peut-être à l'ère humaine, en tout cas.
Oui.
Est-ce qu'on sait si, précisément, des éruptions ont, et comment est-ce qu'on est capable de le savoir d'ailleurs, influencé, modifié le mode de vie de nos ancêtres préhistoriques ?
Alors, il y a eu beaucoup de débats, et il y a beaucoup de débats autour d'une éruption fameuse qui est l'éruption du volcan Toba sur l'île de Sumatra en Indonésie.
C'était
quand ? Produite il y a environ 74 000 ans. C'est une éruption gigantesque puisqu'on en a les restes sous la forme d'une caldeira. Alors une caldeira, c'est un cratère d'effondrement qui se forme lorsqu'on vidange une chambre magmatique, on met en place d'énormes quantités de magma à la surface de la Terre et le volcan s'effondre sur lui-même pour former ces gigantesques cratères qui peuvent faire des kilomètres, voire des dizaines de kilomètres de diamètre sur plusieurs kilomètres de profondeur. Toba, c'est une caldeira de 60 km de long par 30 km de large, c'est gigantesque. Et on a longtemps dit qu'elle avait affecté considérablement l'évolution humaine. Et on parle de goulot d'étranglement de la diversité génétique humaine à ce moment-là.
C'est ça.
C'est très remis en question, voire même un peu abandonné depuis quelques
temps.
Parce
que là, on a évidemment des Homo sapiens, mais on a aussi des Néandertaliens.
C'est ça,
à
il y a
cette
plusieurs,
époque, hein,
il y a plusieurs espèces d'humains dominidés à cette époque. Et voilà, on a dit, ça aurait pu précipiter la disparition des Néandertaliens et affecter la diversité génétique d'Homo sapiens. En fait, on s'est rendu compte. Alors, il y a deux aspects. Il y a d'une part, on est en train de se rendre compte que cette grosse éruption, elle n'a sans doute pas eu lieu en une fois. Il y a des projets de recherche en cours actuellement qui montrent que c'est sans doute une succession de plusieurs éruptions. Et puis,
Toujours au même endroit,
dans ce même Toba, mais que cette caldeira, elle ne s'est pas formée en quelques jours comme d'habitude, mais sans doute sur une période de quelques milliers d'années. Et puis, il y a des études récentes qui ont étudié les occupations humaines juste avant l'éruption et juste après l'éruption, à plusieurs endroits dans le monde et même sur l'île de Sumatra, et qui ont montré qu'en fait, ce goulot d'étranglement de la quantité d'humains génétique sur la Terre n'était pas aussi clair qu'on voulait bien le dire. Donc actuellement, c'est un peu abandonné, cette histoire.
Oui. Quelles conséquences ça a eu quand même sur la planète à ce moment-là? Alors, il y a eu un refroidissement, justement,
Difficile à dire. Ouais. Difficile à dire. On a l'impression que le refroidissement, justement, c'est ce qui est surprenant, c'est que l'éruption est gigantesque et on a l'impression que les effets climatiques ont été assez modérés. Alors, est-ce que c'est parce que ça remonte assez loin dans le temps et qu'on a peut-être pas tous les éléments pour le montrer vraiment dans le détail, mais on n'a pas une grosse empreinte climatique de cette éruption.
Justement, Gilles Chazot, quels sont les outils qui vous permettent de comprendre les impacts des éruptions volcaniques sur le vivant en général? Qu'est-ce qu'on utilise alors?
Ce qu'on utilise pour montrer qu'il y a eu des grosses éruptions volcaniques, c'est les carottes glaciaires, les carottes de glace au pôle, c'est-à-dire à la fois au Groenland et en Antarctique. Donc vous avez eu Valérie Masson-Delmotte qui a rappelé l'intérêt de ces carottes polaires pour l'étude du climat. Eh bien, pour l'étude des éruptions volcaniques, c'est très important.
Donc, on va forer de la glace.
On récupère les carottes.
Climatique.
Voilà. Et on regarde. Alors, ce qu'on cherche, c'est des niveaux de cendres. Simplement, ces niveaux de cendres, la plupart du temps, les cendres sont trop petites pour être visibles. Mais par contre, quand on a une grosse éruption, on a du dioxyde de soufre qui est envoyé dans la partie haute de l'atmosphère, la stratosphère. Ce dioxyde de soufre, il se transforme en sulfate, en acide sulfurique, qui retombe sur Terre et qui est piégé dans les glaces.
C'est ça.
Donc, le long des carottes de glace, on mesure la conductivité électrique et les variations de conductivité électrique permettent de mettre en évidence des accumulations de sulfate. Et lorsqu'on regarde ces endroits-là plus en détail, on trouve des minuscules fragments de cendres volcaniques, alors qu'ils font quelques micromètres de diamètre.
Incroyable.
C'est pour ça qu'on ne les voit pas à l'œil nu, mais qu'on peut extraire.
Et qui permettent de retracer une histoire volcanique, par exemple.
Voilà, alors on montre qu'il y a eu une éruption. Le problème ensuite, c'est d'arriver à trouver le volcan dont vient cette éruption. Et c'est là que c'est compliqué. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on analyse la composition chimique des roches volcaniques des grands volcans qui ont fait des grandes éruptions et on la compare à la composition chimique de ces cendres. Donc voilà, moi, je suis un géochimiste, je travaille sur la composition chimique des roches volcaniques et les gens qui travaillent sur les carottes de glace utilisent ces données pour les comparer aux cendres dans les glaces.
Et donc, parfois, on retrouve ces traces à la fois au pôle Nord ou au pôle Sud, en Arctique ou en Antarctique. Et là, on est capable de dire, on a vu une éruption majeure.
On a eu une grosse éruption.
Qui a un impact sur l'ensemble du globe.
Et surtout, on a eu une grosse éruption dans la zone intertropicale. Parce que si l'éruption est à haute latitude dans l'hémisphère nord ou dans l'hémisphère sud, elle ne va impacter qu'un hémisphère. Mmh. On va en retrouver les traces qu'au Groenland ou qu'en Antarctique. Ouais. Si l'éruption a lieu dans la zone intertropicale, on va retrouver les cendres dans les deux hémisphères.
Gilles Chazot, on va évoquer avec vous le petit âge glaciaire, voir son lien justement avec le volcanisme et puis les conséquences sur la civilisation moderne de grandes éruptions. Vous répondrez également au message qui arrive sur franceinter.fr.
La Terre au carré. Mathieu Vidard sur France Inter.
Gilles Chazot, vous êtes spécialiste de la chimie des roches volcaniques et on parle donc avec vous des éruptions qui ont bouleversé le cours de l'histoire sur des échelles de temps très vastes. Et on va aborder ce petit âge glaciaire qui concerne une période entre le 13e et 19e siècle, c'est ça?
Oui, c'est ça, ouais, en gros.
Ouais. Donc petit âge glaciaire, je crois que c'est Emmanuel Leroy Ladurie d'ailleurs qui a donné ce terme à cette période, qui correspond donc à un refroidissement qui aurait pu être provoqué par une éruption volcanique. J'emploie le conditionnel parce que c'est toujours discuté
ou
pas ?
Oui, c'est toujours discuté. En fait, ce qui se passe, c'est qu'une éruption volcanique peut modifier le climat sur une échelle de temps de quelques années. Or, là, on a une période de plusieurs siècles, hein, vous l'avez dit, 13e, 18e siècle, on a 500 ans de climat anormalement froid. Donc, les deux grandes hypothèses, c'est soit une succession de grosses éruptions volcaniques dont les effets se seraient accumulés pour modifier suffisamment le fonctionnement de l'atmosphère et de la machine climatique terrestre sur plusieurs siècles. L'autre hypothèse, c'est des variations de l'activité solaire. Le Soleil n'a pas une activité forcément... Alors, il y a un cycle de 11 ans qu'on connaît bien, hein, dans lequel on passe par un maximum actuellement.
Mais ce n'est pas une horloge forcément toujours exacte.
Voilà, hein. Il aurait pu y avoir des périodes où l'activité était légèrement plus faible. Donc, c'est une deuxième hypothèse, sauf qu'on n'en a pas beaucoup d'évidence de ça.
Et alors, si on avance l'hypothèse volcanique, on utilise quel volcan précisément pour essayer de parler de ce petit âge glaciaire ?
On a quelques éruptions qui ont été identifiées, notamment celle du Samalas en Indonésie, qui est datée à 1257. Et dans lequel on savait, d'après les glaces, qu'il y avait eu une grosse éruption à ce moment-là, mais on n'arrivait pas à la localiser. Et c'est une équipe française, il y a une dizaine d'années, qui a réussi, bah, comme on expliquait tout à l'heure, à comparer les cendres dans les glaces avec la composition des roches sur le terrain, et qui a montré que c'était un gros volcan en Indonésie, qui avait formé une très grosse éruption. Il y a celle-là, mais il y en a d'autres.
Juste sur cette éruption, pour terminer, on a une baisse des températures globales qui sont de l'ordre de combien à peu près pour avoir une idée
1 à 2 degrés.
Sur l'ensemble du globe
Sur une partie de ce qu'on en sait, hein, parce qu'en XIIIe siècle, on n'a pas des archives, notamment dans l'hémisphère sud, on a beaucoup moins d'archives. Mais on a des évidences de changement climatique à l'échelle du globe.
Oui. Ouais. Autre éruption de ce petit âge glaciaire, alors on avance dans le temps puisqu'on arrive au XIXe siècle, c'est l'éruption du Tambora, éruption qui a changé le monde. Et pour en parler, on va écouter l'extrait de ce reportage du 19-20 sur France 3 en 2016.
Les récoltes de l'automne 1816 sont catastrophiques. Lorsqu'on va essayer d'acheter du pain, on ne trouve pas de pain et donc on a des émeutes dans tout l'hémisphère nord.
La cause de ces catastrophes en série, un volcan situé à 12 000 km de l'Hexagone, le mont Tambora. En avril 1815, il entre en éruption. Son explosion est la plus puissante des 10 000 dernières années. 400 millions de tonnes de particules et de gaz sont propulsées dans l'atmosphère. Un écran de cendres va bloquer les rayons du soleil pendant presque 2 ans.
Gilles Chazot, on a parlé de cet événement comme une année sans été, hein, c'est ce qu'on on disait de l'éruption du Tambora en 1815.
Oui, c'est même sur plusieurs années que le climat a été fortement perturbé. Et il a été perturbé de façon assez étrange, et c'est pour ça qu'on voit la complexité du phénomène. Parce qu'en fait, certaines régions ont connu des étés anormalement froids et anormalement pluvieux. C'est notamment toute l'Europe de l'Ouest et l'Amérique du Nord, mais donc aux latitudes moyennes. Mais par contre, aux hautes latitudes, on a eu un réchauffement du climat. Et ça, on le sait par des anecdotes. Par exemple, on sait que... Alors, 1815, c'est la grande période de la chasse à la baleine.
Oui.
Et on sait, par exemple, qu'en 1815 et 1816, les baleiniers ont rapporté que dans l'hémisphère nord, dans l'Atlantique nord, il y avait beaucoup moins de glace que les étés normaux. Et d'ailleurs, ça a enclenché une série d'expéditions anglaises maritimes pour essayer de franchir le passage du Nord-Ouest. Ça s'est terminé, alors il y a eu une expédition en 1817-1818, ça s'est terminé par la célèbre expédition de John Franklin en 1945, qui a été pris par les glaces, parce que le phénomène n'a duré qu'un an ou deux, et puis les glaces se sont reformées. C'est d'ailleurs, il y a eu un texte dans la Royal Society of London qui a explicité ce réchauffement. Et cet épisode est très utilisé par les climato-sceptiques pour montrer qu'il y a eu des réchauffements climatiques par le passé qui n'étaient pas dus à l'activité humaine. Sauf qu'ils étaient dus à l'activité volcanique. Donc,
Et comment on explique ces variabilités alors, des températures qui chutent, d'autres qui augmentent au même moment.
Ouais, c'est toute la complexité de l'atmosphère terrestre. Les cendres refroidissent l'atmosphère, perturbent l'arrivée des rayons solaires sur le sol sur une durée de quelques mois à un an. mais c'est ces fameux sulfates, cet acide sulfurique qui se forme dans la stratosphère, qui modifie la température. Alors, d'une part, qui bloque le rayonnement solaire, qui refroidit la surface, mais qui réchauffe la stratosphère terrestre et qui perturbe les mouvements des masses d'air à haute altitude.
Gilles Chazot, dans l'histoire du petit âge glaciaire, l'éruption du Tambora a une place à part quand même. C'est celle dont on a le plus de traces sur les sociétés, justement, à l'échelle de la planète.
On a énormément de traces sur les impacts de cette éruption. On sait, par exemple, qu'il n'y a pas eu de mousson en 1815 en Inde. Et cette absence de mousson a été suivie par des pluies diluviennes. Et ça a enclenché une épidémie de choléra qui s'est propagée en Indonésie, qui a fait des milliers de morts en Inde et qui ensuite s'est propagée en direction de l'Ouest, a atteint la France, l'Angleterre, l'Irlande, l'Amérique du Nord dans les années qui ont suivi et qui a fait sans doute des centaines et des centaines de milliers de morts. On le voit parce qu'on retrouve des charniers, par exemple, à Londres, dans la région de Londres, qui date de cette époque.
Donc des famines, des épidémies.
Des famines, des épidémies. En Irlande, c'est une des premières grandes migrations d'Irlandais en Amérique du Nord, par exemple. Il y en a eu d'autres ensuite. Mm-hmm. Mais il y a eu une grosse crise financière en 1819-1820 aux États-Unis. Donc, il y a beaucoup d'impact économique et humain, parce qu'il y a eu des famines terribles.
Mais une fois encore, est-ce qu'à cette époque, on fait le lien entre précisément la situation et le volcan ?
Non, pas du tout. D'autant moins qu'à cette époque, l'éruption, elle a lieu en Indonésie. Donc, en Europe, on ne sait même pas. Les Hollandais savent qu'il y a eu une éruption parce que l'Indonésie est sous administration des Pays-Bas à cette époque.
Mais le lien n'est pas fait.
Mais le lien n'est pas fait du tout, non. Alors que les conséquences sont dramatiques. Oui.
Et beaucoup l'ont observé, finalement, les conséquences de ce volcan.
Oui, alors il y a eu beaucoup de conséquences.
Les peintres en particulier.
Les peintres, on peut parler de Turner, par exemple. On peut parler de Friedrich, qui a fait des peintures aussi où on a des ciels un peu particuliers. Et puis, parmi les anecdotes, il y a celle de Mary Shelley et Lord Byron, qui à l'été 1815, sont en vacances dans les Alpes, en Suisse.
En Suisse.
Et il y a un été absolument dramatique.
Le temps épouvantable.
C'est épouvantable.
C'est ça.
Et comme c'est des littéraires, ils jouent à écrire. Et Mary Shelley écrit Frankenstein ou le Prométhée moderne à cette époque, qui est considéré comme le premier roman de science-fiction de l'histoire de la littérature. Oui.
Donc on doit ce livre à cette éruption.
À cette éruption de 1815 du Tambora.
Et c'est vrai qu'il y a plein de tableaux qui en témoignent.
Oui, il y a beaucoup de tableaux dans lesquels on voit des couchers de soleil absolument fantastiques.
Dans les événements historiques, la bataille de Waterloo.
Alors, 1815. Waterloo, c'est juin 1815. Juin 1815, en Belgique, il devrait faire sec, il devrait faire chaud. En fait, il fait un temps... Il y a de la boue partout, il y a des pluies torrentielles. Le terrain est très boueux, ce qui perturbe beaucoup les manœuvres des armées napoléoniennes. Ouais. Et ce climat anormalement humide de juin 1815, il est dû à l'éruption du Tambora. Donc, sans éruption du Tambora, peut-être que Napoléon aurait gagné Waterloo et que la face de l'Europe et du monde en aurait été changée. Oui.
Donc, l'histoire, elle aussi, est percutée de poulain fouet par des événements comme les éruptions volcaniques.
Ouais, absolument, on en a un bel exemple ici. Ouais. Ouais.
On va passer à la période moderne, contemporaine en tout cas, avec d'autres éruptions au début du XXe siècle et puis beaucoup plus récemment. Puis voir aussi comment on peut imaginer se préparer dans nos sociétés aujourd'hui, à des événements majeurs, parce qu'il ne faut pas les exclure.
Ah, ils vont arriver, ça, on en est sûr.
Ils sont difficiles à anticiper, mais en tout cas, ils vont arriver, ça c'est certain.
Absolument.
À quelle échelle, on ne le sait pas. En tout cas, vous allez répondre à ces questions, Gilles Chazot, dans un instant, ainsi qu'à celles des auditrices et des auditeurs.
Mathieu Vidard, la Terre au carré.
Aux Philippines, les volcanologues redoutent l'éruption du volcan Pinatubo. Les réactions de ce volcan, endormi depuis plus de 600 ans, risquent d'être d'autant plus violentes. Sans attendre, les autorités locales ont donc décidé d'évacuer 12 000 personnes, tandis que les 16 000 militaires et civils de la base aérienne américaine Clark, située à 16 km à l'est du volcan, ont reçu l'ordre de quitter les lieux.
Extrait d'une archive d'Antenne 2 en juin 1991, Gilles Chazot, lorsque les volcans bouleversent le cours de l'histoire et le XXe siècle n'a pas été épargné par de grandes catastrophes liées aux éruptions volcaniques, comme le Pinatubo en juin 1991. C'est vraiment un événement marquant.
Alors, c'est pas une très grosse éruption. On parlait de celle du Tambora, par exemple, tout à l'heure. Le Pinatubo, c'est deux fois plus petit que le Tambora. En fait, le XXe siècle n'a pas connu de très grosses éruptions. On parlait du Tambora, 1815, mais la première moitié du 19e siècle, il y a eu une très grosse éruption en 1809 qu'on ne sait pas situer, mais dont on sait qu'elle a été très grosse. Il y a eu celle de 1815, il y en a eu deux autres dans les années 30, dans les années 1830. Le 20e siècle a été plutôt épargné par ces très grosses éruptions. Ce qui est presque un petit problème pour les gens qui travaillent là-dessus, parce qu'on a peu finalement d'exemples d'impact de ces éruptions sur le climat qu'on pourrait mesurer avec les instruments modernes.
Alors vous parlez de l'impact sur le climat, on pourrait parler des impacts sur les populations.
Et sur les populations.
Parce que là, pour le coup, il y a des éruptions qui ont marqué les esprits en Martinique, par exemple, avec la montagne
Pelée. Oui, il y a eu la montagne Pelée en 1902, qui a fait des dizaines de milliers de victimes. Mais sur le climat, il n'y a pas eu de très gros impacts. L'éruption du Pinatubo a eu un impact sur le climat, mais assez modéré, et c'est là aussi où on voit la complexité de la chose, c'est que l'impact du climat, c'est la projection, on l'a dit, de dioxyde de soufre dans l'atmosphère, sauf que pendant l'éruption du Pinatubo, il y avait une tempête tropicale dans la région, donc d'énormes pluies qui ont lessivé très rapidement ce dioxyde de soufre et qui ont finalement modéré l'impact potentiel de l'éruption sur le climat.
On a parlé d'une petite baisse de température, si je ne m'abuse, de 0,6 degrés pendant quelques mois après l'éruption.
Oui, c'est
donc
ça.
C'est pas énorme, c'est ce que vous nous dites.
C'est pas énorme et cette baisse de température, elle est due principalement à la cendre injectée dans l'atmosphère.
Oui.
La cendre, elle est injectée, elle bloque le rayonnement solaire, seulement elle retombe dans les mois qui suivent. Donc l'impact de la cendre, c'est entre 6 mois et 1 an. Le plus gros impact climatique, c'est le dioxyde de soufre qui, lui, peut séjourner 2 à 3 ans dans l'atmosphère.
C'est-à-dire que là, on a eu un nuage qui a tourné avec ce dioxyde
de soufre. Avec ce dioxyde de soufre qui se transforme en sulfate, en acide sulfurique et qui interagit avec le rayonnement solaire dans la stratosphère, donc au-delà de 20 km d'altitude. Et comme il avait été en partie lessivé par les pluies, l'injection de dioxyde de soufre a été modérée pour l'éruption du Pinatubo. Et donc, l'impact sur le climat n'a pas été très long.
Est-ce que ce dioxyde de soufre, ce sont toujours des effets négatifs? Ou finalement, il peut y avoir aussi des effets plutôt intéressants à l'échelle de la planète
Non, pas trop, parce qu'en plus, l'injection de dioxyde de soufre attaque l'ozone dans la haute atmosphère et a tendance à diminuer la teneur en ozone de l'atmosphère. Il y a même des modèles qui ont été faits, des modèles de chimie de l'atmosphère, qui ont montré qu'une grosse éruption style Tambora a un impact très fort sur la quantité d'ozone dans l'atmosphère, diminue considérablement la quantité d'ozone, et on sait que l'ozone, c'est ce qui nous protège des rayonnements ultraviolets du soleil.
On parle parfois de fertilisation des sols, comme en Italie, par exemple en Sicile, avec l'Etna, quand il y a des éruptions. C'est dû à quoi, alors, finalement, ces effets plutôt bénéfiques pour le sol.
Effets bénéfiques, pour qu'il y ait un effet bénéfique, il faut qu'il y ait une quantité de cendres suffisante. Alors les cendres, elles sont très riches en tout un tas d'éléments minéraux. Il y a de l'azote, il y a du potassium, il y a tout un tas d'éléments qui sont intéressants pour les sols. Mais il faut qu'elles soient en quantité modérée. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait un mètre de cendres partout. Et quand il y a une très grosse éruption, et bien sur des milliers de kilomètres autour du volcan, vous avez des mètres, voire même des dizaines de mètres de cendres. Donc là, il n'y a pas d'effet bénéfique du tout. Et si on est trop loin, il n'y a pas assez de cendres pour... Donc il faut des volcans d'activité modérée pour que l'effet soit bénéfique.
Gilles Chazot, un événement quand même qui a marqué récemment les mémoires, c'est celui d'avril 2010 en Islande.
Un nuage de fumée commence à envahir les aéroports londoniens. Tous les vols sont suspendus sur le territoire britannique. Les avions sont cloués au sol depuis ce matin dans toute l'Europe du Nord, Norvège, Suède, Danemark, Royaume-Uni, à cause d'une éruption volcanique en Islande. Un volcan situé sous un glacier s'est réveillé hier matin. 800 personnes vivant près du volcan ont été évacuées dès hier par précaution. L'Islande redoute des inondations provoquées par la fonte du glacier. Une gigantesque colonne de fumée continue à s'échapper du volcan. Personne ne peut dire combien de temps cela va durer, risquant ainsi de perturber plus longtemps que prévu le trafic aérien en Europe du Nord.
Voilà, France 3 en 2010. Il nous a donné quelques petites sueurs froides, ce volcan dont vous allez bien sûr nous donner le nom.
Oui, c'est l'éruption du Leifafjallajökull, en Islande. Oui, il nous a donné des sueurs froides parce qu'il nous a montré comment une éruption volcanique pouvait perturber l'atmosphère d'au moins d'une partie de la Terre. Et donc perturber le trafic aérien. Ceci dit, ça a été modéré parce que ça n'a pas duré très longtemps et c'était sur une petite partie de l'Europe de l'Ouest. parce que c'est un volcan. L'éruption était modérée hein, par rapport à ouais. les très grosses éruptions dont on a parlé avant, le Tambora, le Pinatubo. C'était une éruption modeste qui avait lieu à haute latitude en plus, donc qui finalement n'a affecté qu'une petite partie du globe, mais qui nous a bien perturbés quand même.
Ouais. Quels sont l'Islande est particulièrement observée en ce moment ou pas? Parce qu'on entend parler de ces éruptions permanentes là, dans le sud-ouest de l'île.
Bah dans le sud-ouest, ça c'est une activité qui va sans doute se prolonger encore, mais ce n'est pas des éruptions gênantes. Pour les sociétés humaines, parce que ce sont des éruptions modestes.
Donc, Gilles Chazot, il y a plein de questions pour vous, donc on y va tout de suite.
Ok.
Question de Marc qui demande « Comment pourrions-nous réagir si de tels événements se produisaient aujourd'hui dans nos sociétés ?» Alors, éruption vraiment majeure, là, pour le coup.
Bonne question. Ouais. Première chose, c'est de la prévoir à l'avance. Ouais. Pour évacuer les populations qui sont à proximité du volcan.
Et ça, on peut le faire à quelle échelle de temps, à peu près?
Alors, si c'est un volcan qu'on connaît et qui est bien équipé, on peut le faire quelques semaines à l'avance. C'est toujours délicat, parce qu'on n'est jamais sûr s'il va y avoir éruption ou pas. On détecte le mouvement des magmas en profondeur. On n'est jamais sûr si ces magmas ils vont atteindre la surface ou pas. Mais on a en principe quelques semaines pour faire évacuer les populations.
Simone demande quid des calderas de Yellowstone aux États-Unis ou de Solfatare en Italie. Y a-t-il des risques de réveil? Et puis je poursuis la question, quels sont les hotspots en ce moment particulièrement regardés?
La caldeira des champs phlégréens en Italie est une zone d'activité possible, puisqu'il y a énormément d'activité sismique en ce moment qui est liée à un réchauffement du système hydrothermal.
Ouais.
Donc c'est un endroit où il pourrait y avoir une éruption majeure.
Ouais. Avec des conséquences majeures aussi.
Avec des conséquences majeures. Parce que là, on est dans la baie
méditerranéenne.
Il y a Naples autour, il y a des millions de personnes qui vivent autour. Ouais. Yellowstone est un endroit où il y a eu très grosses éruptions, mais c'est à des échelles de temps assez longues. Et puis, il y a plein de volcans qui peuvent se réveiller dans les années, les décennies à venir.
Et ça, on ne peut pas forcément le prévoir.
Non, on ne peut pas le prévoir tant que l'activité n'a pas commencé et que les magmas ne se sont pas mis en mouvement.
Sabine nous dit, vous ne parlez pas de l'éruption du Krakatoa en Indonésie. Son influence n'a-t-elle pas été pourtant importante?
Au niveau climatique, pas énorme, non. C'est une grosse éruption, mais elle a eu plutôt moins d'effet que celle du Tambora. Elle était un peu moins puissante que celle du Tambora.
Patrice nous demande si le volcan allemand Eifel, sous le lac de
Lahr-Hörsee
venait à se réveiller. Dans quelles circonstances les effets seraient-ils sentir? Est-ce que ce serait comparable au Laki?
Oui, sans doute. Ce serait une grosse éruption et on sait qu'il y a eu de très grosses éruptions au Lahr-Hörsee avec des perturbations climatiques qu'on a pu mettre en évidence il y a quelques milliers d'années.
Donc c'est sous un lac ce volcan allemand.
Oui, c'est un grand lac et c'est un gros volcan.
Il n'est pas loin de chez nous.
Il n'est pas très loin de chez nous et il est très surveillé.
C'est vrai.
Il est très surveillé.
Il a quelle activité alors?
Alors pour le moment, il n'y a aucune activité. Il y a juste dans le lac des gazages classiques de CO2. Mais il y a de temps en temps quelques petits séismes à grande profondeur, donc on le surveille.
Blaise nous dit ceci, d'après un rapport de vulcanologie, le Piton de la Fournaise est appelé à s'effondrer sur lui-même sur un cône de 4 km de profondeur. Y a-t-il des études à ce propos? Les remparts des cirques seront-ils impactés? Les villes proches risquent-elles de disparaître aussi?
Alors, le Piton de la Fournaise est très surveillé par l'Observatoire volcanologique de La Réunion. Il y a effectivement un risque de glissement, ce qu'on appelle des glissements de flanc sur ces volcans. Et dans ce cas-là, ce serait le plus gros problème, ce serait le déclenchement de tsunamis qui pourrait se propager dans l'océan Indien. Mais il n'y aurait pas d'effet sur le climat, là, par contre.
Et enfin, les questions justement de baisse des températures. Max nous dit, une grosse éruption volcanique avec un gros nuage pourrait-il diminuer le réchauffement climatique? Et puis Thierry nous dit, pour modifier momentanément le climat de notre planète, je constate qu'il faut des volumes plus que conséquents de matière comme le soufre. Est-il réaliste de penser que la géo-ingénierie pourrait rivaliser avec les volcans?
Alors, le refroidissement climatique par les volcans, oui mais non. Parce que effectivement, les éruptions refroidissent le climat, mais sur des échelles de temps qui sont faibles. Une grosse éruption comme le Tambora, c'est 2 à 3 ans, et puis tout recommence après. Donc c'est pas la bonne solution. De là à injecter du dioxyde de soufre dans l'atmosphère, il y en a qui y pensent. C'est très dangereux parce que on l'a évoqué tout à l'heure pour le Tambora, ça réchauffe à certaines parties, ça refroidit à d'autres. Donc si on se met à jouer à ça, on est mal parti. On est encore plus mal parti que si on fait rien, je pense.
Est-ce que le réchauffement climatique joue un rôle aussi sur la mécanique éruptive?
Oui, parce que notamment la fonte des glaces va sans doute permettre l'augmentation du nombre des éruptions volcaniques. parce qu'on diminue la pression dans la croûte et dans le manteau terrestre, donc on va augmenter la formation de magma. Et si on enlève la glace, les magmas vont remonter plus facilement à la surface. Donc ça peut être le cas en Islande. Et ça pourra être le cas à plus long terme en Antarctique.
Donc, ce n'est pas une bonne nouvelle non plus.
C'est pas une très
pour
bonne
le volcanisme. Eh bien, super. On va se quitter là-dessus.
Mais en par plus, contre, les amateurs de volcans seront ravis.
Oui, j'imagine pour vous qui les étudiez de très près. Merci beaucoup, Gilles Chazot, d'être venu au micro de La Terre au Carré. Ce dossier volcanique a été préparé aujourd'hui par Jean-Philippe Verret. Bon retour en Bretagne.
Merci.